Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez le podcast officiel du Design Humain, la référence du design humain francophone. Je suis Josette Lamotte, directrice et enseignante à l'École Design Humain France. Ce podcast me permet de partager avec vous des informations essentielles pour vous aider à vivre votre design et à comprendre plus en profondeur la mécanique du design humain. Cet épisode s'intitule « Le design humain pour comprendre les enfants ». Nous allons découvrir ensemble les moyens de respecter l'unicité de chaque enfant grâce aux outils du design humain. Le design humain est pour les enfants, bon, c'est aussi pour les parents, on est bien d'accord, mais c'est vrai que c'est un outil précieux et la première étape pour pouvoir se servir de cet outil, des outils que nous propose le design humain, que nous offre le design humain, c'est de connaître le schéma corporel de le vôtre, bien sûr, si vous ne le connaissez pas. Allez-y, découvrez-le, c'est gratuit, vous pouvez aller, il y a plusieurs sites qui offrent ça gratuitement, c'est en français sur le site Design Humain France, l'école officielle du design humain francophone, et c'est aussi anonyme, c'est-à-dire vous n'avez pas même besoin de mettre votre nom, et vous pouvez faire une capture d'écran et garder faire toute votre famille, vos amis, et surtout vos enfants. Alors, quand on aborde le sujet de l'éducation, parce que si on parle des enfants, on va parler des parents, forcément, et de l'éducation. La première chose à regarder, c'est que nous avons évolué et que l'éducation n'est pas la même. Et nos ancêtres, même nos arrière-parents, même nos parents, le conditionnement par l'éducation est très différent de ce qu'était le conditionnement de nos ancêtres. Il y a eu une grande mutation à l'époque de la découverte de la planète Uranus en 1781, où nos ancêtres avaient 7 centres. Et nous, on parle dans le design humain, enfin 7 chakras même, on disait à cette époque, hein, 7 chakras, et nous, on parle de centres. Et l'être au 9 centres, c'est ce qu'on étudie dans le design humain. Quand vous prenez un cours Vivre son design, on découvre les 9 centres, comme vous voyez sur ce schéma corporel. Et je dis toujours, et vous avez peut-être déjà entendu ça, mais que peut-être plus tard, nos futurs petits-enfants diront nos ancêtres au 9 centres, puisqu'on est toujours en évolution. Donc, le design humain est d'abord et avant tout pour les enfants. Les enfants d'aujourd'hui vont hériter du non-soi stratégique s'ils sont conditionnés par le non-soi. Qu'est-ce que c'est le non-soi stratégique? Quand on parle de non-soi stratégique, de quoi on parle? On parle, c'est surtout une société, la société, donc on est tous impactés, c'est la loi du plus fort, la compétition et même au-delà. Être stratégique, avoir un agenda et un objectif, en soi, il n'y a rien de mal. Il y a des gens qui sont câblés pour et qui arrivent bien. C'est naturel pour eux, ils ont un agenda, ils vont atteindre leur agenda, c'est facile pour eux. Mais malheureusement, si ça ne reste pas dans le respect de l'autre, si c'est dans le respect de l'autre, mais le non-soi stratégique, c'est quand on va vers un comportement belliqueux, un comportement qui est compétitif à outrance et qui pousse à la guerre. Bon, on est tous au courant hein, que c'est toujours le cas au jour d'aujourd'hui, malheureusement. Donc, c'est la loi du plus fort et tous les moyens sont bons pour y arriver, même si on fait du mal à d'autres personnes. Donc, c'est ce non-soi stratégique qui prédomine toujours. Il suffit de regarder les films, même ceux qui sont adressés aux enfants d'ailleurs, il y a beaucoup de violence et les parents en général doivent faire le tri hein, s'ils sont un petit peu conscients de dire ça, ben non, c'est trop violent, on ne va pas montrer ça à nos enfants. Mais le message qui passe toujours dans l'inconscient, hein, c'est la violence et ça. Donc, il n'y a qu'une solution qui nous reste pour nous, quand qui se penche sur ce sujet de l'éducation des enfants, c'est de vivre en suivant notre stratégie, notre type et en écoutant notre autorité intérieure, puisqu'il n'y a pas vraiment de modèle qui est bon, ils sont rares les modèles, je veux dire. Hein. Donc, c'est important de se rappeler aussi que les enfants d'aujourd'hui deviendront les parents des enfants rêves. Alors, qu'est-ce que c'est les enfants rêves? Je vais sans doute en parler un tout petit peu plus en janvier, lors de la conférence du mois de janvier. Tous les ans, il y a une conférence sur le nouveau cycle qui se trouve en 2023, ce sera le 22 janvier. Le nouveau cycle va commencer le 22 janvier. Donc, la conférence, elle aura lieu un petit peu avant. Et à cette époque-là, j'aime bien parler de l'évolution de notre humanité et de l'arrivée des enfants rêves qui vont être très sensibles très différents de nous. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, je vais plutôt continuer sur qu'est-ce que c'est la mission des parents qui veulent aider leurs enfants à devenir, à se respecter, à être, voilà. Et chaque enfant a son propre chemin, a sa propre façon d'être, et ça passe, la responsabilité des parents est énorme. Et il n'y a pas d'autres outils qui permettent de regarder l'autre, donc soi-même, mais aussi une autre personne, avec autant de précision que le design humain. En tout cas, moi, je n'en ai pas trouvé d'autres outils. Et la première étape, c'est de connaître le type de votre enfant. Le vôtre, bien sûr, comme on a vu, alors c'est un petit peu décalé ici, mais si on regarde, il y a quatre types, il y a bien quatre couleurs ici, enfin, il y en a cinq, mais le générateur et le générateur manifesteur, l'orange et le rouge ici, c'est le même type. Générateur, qu'il soit générateur pur ou générateur manifesteur, ils ont la même aura, donc c'est bien un générateur. Le manifesteur, le projecteur et le réflecteur. Et ce qui se passe, c'est intéressant de voir cette image, pourquoi la plupart des enfants sont des générateurs, puisqu'ils sont à 70% générateurs, le type, au niveau du type. Donc les autres enfants, les 30 autres pourcents des enfants vont forcément être très influencés, même au sein du design humain. Hein, quand on connaît le design humain, et non seulement il y a la condition de la société qui est non soi stratégique, mais même à l'intérieur du design, on doit faire aussi attention à ce que tous les enfants ne soient pas éduqués comme des générateurs. Donc, il est vraiment important de connaître le type de votre enfant, de vos proches en général, mais bien sûr de votre enfant. Est-ce que c'est un enfant générateur? Alors, on sait que dans chaque type a une aura différente. Le générateur a une aura qui enveloppe la communication, l'interaction avec l'autre commence par l'interaction de l'aura. Et l'aura d'un enfant générateur est très différente, d'un parent générateur. Des générateurs sont très différents de l'aura, par exemple, d'un projecteur. L'aura du projecteur, elle est focalisée comme un laser, et elle peut se focaliser surtout sur une personne à la fois. L'aura du manifesteur, elle est plus fermée, hermétique. Ça ne veut pas dire que l'enfant manifesteur est fermé, c'est pas ça du tout. Mais une maman, elle va sentir que son enfant, peut-être, elle ne peut pas l'envelopper aussi. Imaginons une maman générateur qui a deux enfants, un enfant manifesteur et un enfant projecteur. C'est le cas d'Evelyne ici parmi nous, donc elle pourra nous en parler plus tard. Eh bien, elle va tout de suite sentir, même physiquement, elle va sentir « Ah, c'est pas c'est pas le même feeling quand je suis avec mon enfant manifesteur qu'avec son frère, le projecteur. » Et ça peut être source d'inquiétude, de dire « Mais pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi c'est… » Voilà, on se pose des questions. Et comme c'est invisible, on peut pas vraiment le le voir. L'enfant réflecteur, lui, il a une aura qui est protectrice aussi, un peu comme celle du manifestant, mais qui s'ouvre et qui se ferme. Donc, pourquoi je passe, c'est très technique ce que je dis hein, maintenant, je parle d'aura. Mais en fait, c'est parce que grâce à ce côté technique, mécanique de l'aura, on va pas interagir de la même façon avec un enfant manifesteur, par exemple, et c'est très différent puisque l'enfant manifesteur, il a surtout besoin qu'on le laisse tranquille, qu'on le laisse tranquille, qu'on le laisse même dormir sans le solliciter, sans le stimuler. Quel est l'enfant qui aime bien être stimulé? Les parents vont, en général, ils sont contents parce que l'enfant générateur répond. Il fait des sons, il répond, il sourit. Mais un enfant manifesteur, si on va le solliciter, hein, comme on fait avec un enfant générateur, pareil avec l'enfant projecteur, c'est pas du tout la même réponse. Ils peuvent pas. Ils ont surtout le manifesteur, l'enfant manifesteur, il a surtout besoin qu'on le laisse en paix. Donc ça aide beaucoup de connaître le type de votre enfant. Et puis bien sûr, il y a le modèle parental de nos ancêtres qui typiquement étaient basé sur le rôle d'autorité, avec des règles précises et universelles, c'est-à-dire tout le monde pareil, tout le monde va se coucher à la même heure, on mange tous à la même heure, on va tous apprendre de la même façon, on va punir les enfants s'ils ne se rappellent pas de leur leçon. Hein, tout c'est encore en cours aujourd'hui, peut-être pas, ça commence quand même, on commence à se rendre compte que c'est peut-être pas, voilà, toutes les règles ne sont peut-être pas c'est peut-être pas les mêmes pour tout le monde, c'est peut-être qu'on devrait quand même regarder ça de plus près. Ça commence petit à petit. C'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Donc la première chose, c'est de connaître le type de votre enfant, puis d'en comprendre son aura. Et puis d'arrêter, bien sûr, de vouloir que son enfant soit parfait ou qu'il soit comme on aurait bien nous aimé être ou en le comparant aux autres. Chaque enfant est unique. On voit ça quelquefois dans les films, même dans la vie malheureusement, où les parents se mettent derrière un enfant, ils sont vraiment à le pousser à faire tout plein d'activités, sans vraiment demander à l'enfant s'il a envie. Et l'enfant, comme il est très malléable, il est très ouvert, il veut faire plaisir à ses parents. Mais est-ce que lui, il a vraiment envie, par exemple, de... Bon, il n'y a rien qui me vient à l'esprit, mais vous comprenez, de faire des tas d'activités ou de jouer du piano ou de jouer des tas d'instruments et en plus du violon et en plus le piano et en plus l'équitation et en plus... la natation, bon, enfin bon. Alors, dans notre évolution, on est dans un cycle qui est beau, qui n'est plus le cycle saturnien où nos parents, nos arrières, bon, nos grands-parents, enfin bon, la vie était beaucoup plus courte. Hein. On était adulte à partir de 15 ans et puis on mourait à 30 ans. Bon, ça fait longtemps ça, mais maintenant, c'est la vie. La vie dure plus longtemps, on vit plus longtemps. Mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau des enfants? Ça veut dire qu'ils prennent aussi plus longtemps pour devenir adultes. Dans le dessin humain, la maturité d'un enfant, elle est à 30 ans. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on est enfant à 20 ans, mais vous comprenez ce que je veux dire. La maturité pour être vraiment adulte, c'est 30 ans dans le dessin humain. C'est-à-dire jusqu'à 30 ans, on est toujours en train de découvrir qui on est. On n'est pas encore complètement, mûr, je vais dire. C'est le mot qui me vient. Et puis, après ça, il y a des cycles qui durent jusqu'à, facilement jusqu'à 80 ans. C'est un peu la moyenne maintenant, la moyenne de vie, ou plus. Chaque type a une signature unique. Donc, on a une aura unique et une signature. dans le design humain, on a ces termes, et quand vous étudiez, on vous en parle de ces termes. La signature est dans la relation parent-enfant, serait le respect de chacun, donc le respect de l'enfant, et a besoin d'être basé sur le respect de la signature de l'enfant. Donc, je vais vous les donner, ces signatures, si vous voulez. La signature, je vais reprendre cette image, puisqu'elle nous donne les quatre types. La signature du générateur, c'est la satisfaction. C'est la satisfaction. Si vous avez un enfant générateur, il a forcément le centre sacral défini. Pour bien communiquer avec lui, vous avez besoin de lui poser des questions fermées à cet enfant et d'éviter de lui donner des ordres. Par exemple, au lieu de lui dire « fais tes devoirs » ou « range ta chambre » ou « finis ton assiette », bon, j'espère que ça on ne le dit pas, mais bon, eh bien, on dirait « est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, ranger ta chambre ?» Quand tu auras envie, est-ce que tu veux bien ranger ta chambre? Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, faire tes devoirs? Bon, moi, je rajoute le s'il te plaît, on n'est même pas obligé. Est-ce que tu as pensé à faire tes devoirs? Est-ce que tu aimerais finir ton assiette? Vous voyez? Et pour donner à ce centre sacral, au générateur, le générateur, il a besoin d'être respecté, qu'il soit un enfant ou un adulte. Mais l'enfant aussi a besoin d'être respecté. C'est-à-dire, nous, on a l'obligation, on a besoin de lui donner l'opportunité de dire oui ou de dire non. Non, j'ai pas du tout envie de faire mes devoirs maintenant. Je les ferai plus tard ou demain. Donc après, l'adulte peut redire bon, alors voilà, est-ce que c'est maintenant, c'est le soir, c'est plus tard. Est-ce que tu as pensé à faire tes devoirs? Ou à ranger ta chambre. Donc, on donne toujours le choix à ce générateur de répondre par oui ou par non. Sinon, on ne le respecte pas. Le manifesteur, lui, pour interagir avec le manifesteur, on ne peut pas lui poser ses questions fermées parce que son sacral n'est pas là pour répondre, donc lui, il ne peut pas répondre. Par contre, on peut l'informer, on peut tout à fait de lui proposer de nous dire si, dis-moi si tu as fait tes devoirs, dis-moi si tu as rangé ta chambre ou si tu vas ranger ta chambre, dis-moi. Bon, c'est un langage de tous les jours. On va pas lui demander, je te demande de m'informer. Bon, on lui dit, dis-moi quoi. Dis-moi quand tu penses ranger ta chambre, si tu as rangé ta chambre. Dis-moi si tu veux que je t'aide, dis-moi si tu veux que je te le rappelle. Et l'enfant manifesteur, on a besoin de lui apprendre à demander la permission quand, par exemple, il a envie de manger un gâteau. Au lieu de se servir dans la boîte, on va lui dire, écoute, demande la permission. Est-ce que je peux manger un gâteau? Bon, et voilà. Est-ce que je peux aller jouer avec mon copain? Est-ce que je peux sortir dehors et aller, jouer au ballon? Est-ce que je peux? Et quand il va devenir adolescent, il n'aura plus envie. Il n'aura plus envie de demander. Mais jusqu'à l'adolescence, le parent a besoin de lui apprendre à demander la permission. Ce qui va l'aider quand il sera adolescent, à informer, à dire, ben voilà, je sors, je vais voir, il ne demandera plus la permission, je rentrerai à 22h. Bon, je dis, l'adolescence, vous pouvez dire, ben jusqu'à 18 ans, tu nous demandes la permission. Après 18 ans, tu ne nous demandes plus la permission et tu nous dis, par exemple, ou ça peut être 16 ans ou 17 ans. Chaque parent et enfant sont différents. Alors, le projecteur, lui, l'enfant projecteur, il a besoin d'être chouchouté, on dit. Donc, si dans une famille il y a plusieurs enfants, bon, le projecteur a besoin d'être reconnu. Donc, voilà, on a besoin de l'inviter, de lui faire des petits cadeaux, de le traiter de certaines façons. On ne peut pas lui poser des questions, mais on peut l'inviter à, écoute, je te propose de ranger ta chambre avec toi, je t'invite, si tu veux, je t'aide. Donc, ce genre de choses. Donc, c'est peut-être l'enfant qu'on va aider peut-être un petit peu plus que les autres jusqu'à ce qu'à un moment, il va dire, mais non, mais j'ai envie de faire ça tout seul. Donc, des petits cadeaux, des petites invitations. Et là, on pourra en discuter. Si ça vous paraît un petit peu difficile à imaginer, on pourra tout à fait se mettre, par exemple, on va lui donner, s'il reste encore une part de gâteau et qu'il en a très envie, on va lui donner à lui, ou un plus gros morceau à lui, des petites choses, des petits gestes, et l'inviter à faire des choses différentes, variées. Il a besoin de variété, qu'on lui propose des choses variées pour qu'il puisse choisir aussi et puis se donner, échantillonner quelque part toutes ces choses-là. L'enfant réflecteur, il est très sensible. Donc, j'ai oublié de donner la signature. J'ai donné la signature de la satisfaction pour le générateur. La manifesteur, c'est la paix. Donc, on ne va pas le solliciter tout le temps. On va lui, par exemple, le laisser jouer tranquillement. Il aura peut-être besoin de se retirer le soir et d'être tout seul dans sa chambre. Voilà, il a besoin d'être seul. Un bébé, on n'a pas besoin tout le temps d'être sur lui en train de le solliciter. Le projecteur, lui, c'est sa signature, c'est la réussite et l'efficacité. Donc, de lui proposer des jeux, de lui proposer des choses pour qu'il puisse réussir. Et bien sûr, si on voit qu'il n'y arrive pas, on l'aide pour qu'il puisse réussir. Oh, t'as réussi, tu y es arrivé, bravo. Et ce genre de choses. Le plus il va être reconnu, le plus il va briller. Sinon, il devient amer. Le réflecteur, sa signature, c'est la surprise. Donc, bien sûr, lui proposer des choses pour qu'il soit surpris, si c'est un enfant. Et lui donner le temps, bien le temps, avant de lui demander de prendre une décision. Surtout une grande décision, il a besoin de prendre son temps. Et bien sûr, de connaître l'autorité intérieure de vos enfants. Donc, le type, c'est la première étape pour l'interaction. Mais après, on va parler de la stratégie, on va parler de l'autorité intérieure. Et ça, vous pouvez vous rapprocher d'un analyste, et de recevoir. Il y a des analystes ici qui sont spécialistes du développement de l'enfant. Et vous pouvez, ils peuvent vous aider, vraiment à comprendre votre enfant et vous aider à communiquer. Donc, si on revient sur ce qu'on dit ici, le sommeil. Je voudrais parler du sommeil, de l'alimentation, puisqu'on a parlé un petit peu de l'interaction. Chaque besoin de sommeil est différent. Alors, c'est vrai que moi, à l'époque où j'étais enfant, tout le monde allait se coucher. Allez, c'est l'heure d'aller se coucher. Mon frère était projecteur, moi, je suis générateur. On allait se coucher à la même heure. Maintenant, un projecteur a besoin de beaucoup plus de sommeil qu'un enfant générateur. Donc, c'est sans doute lui qui aura besoin d'aller se coucher plus tôt que les autres. Et aussi, si c'est possible, d'avoir les enfants ont besoin d'avoir chacun leur chambre pour bien se reposer. Un enfant projecteur a besoin de beaucoup plus de sommeil qu'un enfant générateur, par exemple. Forcer un enfant générateur à aller se coucher quand il n'est pas fatigué, c'est le torturer. En fait, l'enfant générateur, le mieux, c'est de le laisser tomber de sommeil. En général, en jouant, il tombe de sommeil et on le porte dans son lit. C'est l'idéal pour un enfant générateur. Le projecteur, pas du tout. Le manifesteur, ils ont besoin d'aller se coucher, se dégager de l'aura des autres et d'être seul un petit peu pour pouvoir se nettoyer de l'énergie des parents, des frères et sœurs. C'est pour ça que dormir seul, c'est tellement important. Sinon, ils n'arrivent pas à se dégager de votre... Si vous êtes générateur et que vous avez un enfant projecteur, si vous le chargez d'énergie, le pauvre enfant, il peut pas s'endormir. Et c'est vrai aussi pour le réflecteur, il a besoin de se dégager et d'être seul, bien avant d'aller se reposer, peut-être de faire un jeu tranquille ou de lire une histoire, mais de pas être trop près de cet enfant. Donc, il y a des petites astuces comme ça qu'on peut vous donner. La stratégie de chaque type. Donc, bien sûr, ça va peut-être pas forcément vous parler, mais donc, pour un adulte, informé avant d'agir si c'est un manifesteur. Sinon, demandez la permission pour un enfant. Un enfant manifesteur a besoin de demander la permission et puis il va voir qu'il peut avoir de l'impact. Et quand il rencontre de la résistance, il va se mettre en colère, sinon il va trouver la paix. Le générateur et le générateur manifesteur, leur stratégie, c'est de, ben, c'est d'être disponible pour répondre avec leur son sacral. Et donc, le oui ou le non, les enfants générateurs font beaucoup de sons, des sons qui sont des sons de satisfaction, et puis d'autres sons, les sons qui sont la frustration. Un son qui accepte et un son qui refuse. Le projecteur, lui, il a besoin d'attendre une invitation et il va avoir de la réussite et de l'efficacité, sinon il va devenir amer. Et le réflecteur, il a besoin de discuter de ses décisions à prendre dès qu'il peut parler et de ne pas le précipiter puisqu'il va être déçu. Il reçoit beaucoup l'énergie des autres, le réflecteur. Donc, tout est une question d'environnement. Je reviens sur cette histoire du conditionnement des enfants et surtout les enfants projecteurs, réflecteurs aussi, mais l'enfant projecteur, puisqu'il est quand même, sont nombreux les projecteurs, de ne pas le pousser comme un enfant générateur. Et ça, c'est dramatique pour les projecteurs, parce que comme il y a beaucoup de générateurs à l'école, par exemple, les parents disaient, mais pourquoi tu ne fais pas comme ton copain, comme ton frère, comme ta sœur? Elle a déjà fait tout ça, toi, tu n'as encore pas tout fini, peut-être tu n'y arrives pas, tu vas doucement, pourquoi tu vas si doucement? Le pauvre projecteur. Ou alors, il va tellement se pousser pour faire plaisir à son papa, à sa maman, qu'il va s'épuiser. Et ça va être un comportement qui risque de perdurer lorsqu'il est adulte, ce qui n'est pas sain. On n'est pas tous câblés de la même façon. Et c'est pareil pour les enfants. L'autre chose qui est intéressant, et ça, c'est aussi important de vous rapprocher d'un spécialiste, un analyste spécialiste du développement de l'enfant. À ce moment-là, vous pouvez aller demander si votre enfant a un cerveau actif ou passif, parce que c'est au niveau de l'apprentissage de l'enfant, c'est pas du tout la même façon d'apprendre. Un cerveau passif, il a pas besoin de structure pour apprendre. Alors qu'un cerveau actif, si. Et puis, voilà, la digestion, la nourriture va vraiment avoir un impact énorme sur le développement neuronal de votre enfant. Et ça démarre dès que vous avez tout de suite, même au biberon. Il y a des enfants, ils ont besoin de... C'est mieux si c'est plutôt froid. Si ça a besoin d'être plutôt chaud. Il y en a, ils ont des enfants qui ont besoin de manger dans le calme. Il y a des enfants qui ont besoin qu'on les... Vous savez ça, qu'on bouge, si on marche pendant qu'ils mangent, ça va mieux. Ou même si on les met dans... J'ai vu des parents qui ont eu besoin de mettre leurs enfants dans la voiture, mais ils étaient contents parce qu'enfin, l'enfant, quand la voiture roule, l'enfant mange. Le bébé mange. Et ça, nous, on peut le voir. Ces choses-là qui ne sont pas vraiment des choses traditionnelles. Peut-être un enfant, il aime plutôt une ambiance calme, le silence. Il y a des enfants, ils aiment mieux que ce soit, et je parle du bébé, hein, ils mangeront mieux s'il y a un petit peu de musique, de bruit, de stimulation, et ça peut impacter. Donc, ça démarre dès que l'enfant est bébé. Mais après, même au niveau de la nourriture de votre enfant, chaque enfant a une façon de manger comme chaque adulte qui est différencié. C'est ce qu'on apprend dans le cours de différenciation. Et ça, c'est bien sûr important. Donc, je pourrais continuer, bien sûr, parce qu'il y a tellement d'informations. Mais les étapes, les premières étapes, c'est de connaître le type de votre enfant. Si vous pouvez demander un rapport de synthèse qui va vous donner très, très simplement le type, la stratégie et l'autorité intérieure de votre enfant. Et puis surtout, surtout, rapprochez-vous des analystes certifiés qui peuvent vous aider. Une analyste peut vraiment vous guider et aussi l'analyste spécialiste de l'enfant peut vous donner beaucoup d'informations. Voilà, donc je vous remercie déjà pour ceux qui téléchargent et puis je vais ouvrir le micro maintenant et vous laisser poser des questions si vous en avez ou des témoignages, comme par exemple Laure, je ne sais pas si tu as remarqué, peut-être tu pourrais, puisque j'ai mentionné tout à l'heure, comment tu communiques avec tes enfants, et tu as bien remarqué aussi que au niveau du sommeil, elles ont plus besoin de sommeil, peut-être. Ça t'a surprise au début des choses, peut-être à nous indiquer.
Oui, merci Josette. En effet, moi, déjà mes filles sont donc projecteurs et je les ai eu en même temps, donc c'est des jumelles. Et c'est vrai que le fait qu'elles dorment beaucoup, je trouvais ça génial parce qu'avec des jumelles, on a le double travail. Donc en fait, c'était super. C'est ce qui nous a permis de tenir, on va dire. Et maintenant qu'elles sont, elles sont plus grandes, elles sont au collège, donc c'est vrai que systématiquement, heureusement que je connais le design parce que quand elles rentrent de l'école, elles se mettent dans leur lit, elles s'allongent et elles ont besoin d'au moins 1 heure pour se ressourcer au calme, seules. Voilà, donc moi, c'est vrai que, bon, en tant que générateur, les souvenirs que j'avais petite, j'étais plutôt toute pimpante de rentrer à l'école, je prenais mon goûter, je faisais mes devoirs. Donc c'est vrai que c'est vraiment très, très différent. Et donc, le fait de connaître leur fonctionnement, du coup, je me retiens, hein, parfois je me rattrape, je dis, mais alors qu'est-ce que tu as prévu de faire? Ou qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Et hop, je m'arrête en fait, et je souris, je me dis, bon, on les laisse, quoi. Donc c'est vrai que leur fiche un peu la paix, même si ce n'est pas des manifesteurs, mais respecter leurs besoins, respecter leur rythme, et ne pas être toujours derrière à les pousser. Et finalement, ça m'a vraiment aidé, moi, dans mon processus de déconditionnement, parce que j'ai pris conscience de tous ces je dois, il faut, c'est comme ça que ça devrait être. Donc, vraiment, ce que tu disais sur finalement, le modèle parental dont on a nous-mêmes hérité, qu'on a également un petit peu subi aussi. Voilà ce que je peux partager. L'invitation, c'est pas quelque chose qui est naturel. C'est vrai, je pose beaucoup de questions fermées en tant que générateur. Donc j'apprends, je suis toujours en train d'apprendre. Et c'est vrai que ce que tu disais sur la reconnaissance, moi je le vois beaucoup avec les notes, avec les cadeaux, ça marche très très bien. Mais voilà, ça tombe pas non plus dans la carotte, tu vois. J'essaye de pas nécessairement mettre ça un peu comme une forme de chantage quelque part, hein. C'est pas l'idée, mais c'est vrai que quand voilà quelque chose est réussi, je me pousse un petit peu, je me force un petit peu à exagérer un petit peu, voilà. Voilà, mais c'est
Et ouais,
génial, wow. Voilà. Et
c'est ça,
je l'ai, c'est ça. Hein. Et la dernière fois, je l'ai testé justement. Elle avait fait un très beau dessin, mais plutôt que de dire ah oh, il est génial ton dessin. Je suis vraiment rentrée dans la spécificité du dessin. Ah, mais là, je vois la profondeur. Ah, puis là, il y a différents personnages. Oh là là, et vraiment, je décrivais. Et elle était vraiment bluffée. Et j'ai vu sur son visage qu'il s'est illuminé. J'ai senti la reconnaissance. Donc, c'est vrai que on apprend hein, tous les jours, en fait. Nos enfants nous aident. Voilà.
Merci Laure, merci, merci. Oui, donc si vous avez des questions, allez-y, ou un partage, un autre partage, peut-être Evelyne aussi. Parce qu'Evelyne, toi, tu connaissais pas le design à l'époque où tes enfants étaient petits, mais tu as sans doute vu une grande différence entre le projecteur et le manifesteur, n'est-ce pas?
Souvent, je me félicite que mon amour de maman m'a permis d'avoir tout de même les bons réflexes, parce que non, je ne connaissais pas du tout le design, mais par contre, j'ai toujours vu la différence de comportement entre l'aîné qui était manifesteur et le cadet projecteur. C'est vrai que même encore maintenant, quand je les embrasse, moi, en tant que générateur, je prends mes enfants dans mes bras, bien sûr. Et je sens que la réponse n'est pas du tout la même. Celle du manifesteur est plutôt réservée, alors que le projecteur se laisse plutôt faire. Et le témoignage que je pouvais faire aussi, en t'écoutant, j'ai repensé quand il préparait le bac. Bon, moi, en tant qu'enseignante, évidemment, j'étais tout de suite prête à les aider. J'ai essayé avec le manifesteur. Ça n'a pas marché, hein. Il a fallu tout de suite que j'arrête parce que ça aurait pu faire un drame. Donc, je l'ai laissé étudier comme il avait envie. Et c'est vrai que lui, son leitmotiv, c'était toujours laissez-moi tranquille. Et heureusement qu'on l'a laissé tranquille. Et souvent, il était En revenant de l'école, il allait tout de suite dans sa chambre et personne ne l'embêtait, il redescendait quand il avait envie. Et par contre, le projecteur, eh bien, ça a été un plaisir de travailler avec lui. Il a été tout à fait content de l'aide que je lui ai apportée et ça l'a bien aidé. Donc, ben voilà, c'était pour bien Merci. Montrer la différence entre les deux. Même oui, si je ne connaissais pas, j'étais tout de même dans le respect de l'enfant et c'est ça qui m'a beaucoup aidée.
Merci, Evelyne. Oui, alors... Peut-être qu'une maman aurait pu dire « Oh, mais qu'est-ce qu'il a, mon enfant ? Il ne veut pas que je l'aide. » Voilà, à être un peu même voilà, blessée que son enfant lui dit non. Alors que finalement, c'est correct pour l'enfant manifesteur de dire « Laissez-moi tranquille. » Donc, oui, c'est bien ton témoignage, Evelyne, par rapport à ça. Tous les enfants sont différents. Alors, est-ce que vous avez des questions ou d'autres témoignages qui pourraient vous éclairer les autres ou...
Oui, c'est Sandrine de Lyon. Je suis projecteur et effectivement, dans l'enfance, j'ai pu constater très jeune que je n'avais pas accès à la même énergie que les autres, que je n'étais pas forcément toute seule puisque je voyais que j'avais aussi quelques camarades dans le même cas que moi, qu'on était une minorité. Et du coup, différent, donc pas toujours facile à vivre. Les profs ne comprenaient pas toujours non plus, donc ils nous poussaient à faire pareil que les générateurs, alors qu'on n'en était pas capable, hein, tout simplement. Donc, ce n'était pas toujours rigolo. Et puis, je voulais aussi partager quelque chose quand tu as parlé du cerveau actif ou passif et de l'apprentissage, partager mon expérience, puisque ma maman est également projecteur, mais elle a le mental défini et moi complètement ouvert. J'ai un cerveau passif, réceptif. Et donc, quand elle me faisait faire mes devoirs, je comprenais qu'elle attendait de moi quelque chose qui était évident pour elle et que j'étais incapable de faire... De la manière qu'elle essayait de m'expliquer, je comprenais pas. Je sentais que c'était bienveillant et que elle comprenait pas que je comprenais pas, mais je comprenais que j'avais pas les mêmes outils. Et du coup, bon, j'arrivais quand même à un résultat, mais pas du tout avec le chemin qu'elle voulait que je prenne. Et voilà. Donc même en étant du même type. C'est bien de pouvoir avoir accès à toutes les clés du design d'un enfant puisqu'il y a tout un tas de nuances qui font la différence. Voilà, merci.
Merci Sandrine, non, c'est tout à fait pertinent ce que tu dis sur l'apprentissage et les enfants qui sont réceptifs. Et bien sûr, je ne peux pas vous expliquer ce que ça veut dire maintenant, mais on va planifier une conférence sur ça, sur... qu'est-ce que c'est d'être réceptif, d'avoir un mental, un cerveau passif ou un cerveau actif, ou d'être voilà, stratégique ou réceptif. Donc, par exemple, un enfant qui a un cerveau actif, il a besoin de structure. Donc, et puis, quelqu'un qui a un cerveau passif, je crois que c'est ton cas, hein, Sandrine, ben, c'est pourvu qu'il écoute bien, par exemple, le prof à l'école, il n'a pas forcément besoin il va s'en rappeler. Il va s'en rappeler. Hein. Donc, il n'a pas besoin d'étudier, de tout recopier ou de... Allez, c'est pas du tout la même... Et de la même façon. Et il y a des parents qui se font du souci, qui se disent « Ah oui, mais il ne révise pas. » Par exemple, je me souviens d'une maman qui nous disait « Mais mon enfant, il va passer son examen, mais il ne révise pas. Il se dit qu'il n'a pas besoin de réviser. Moi, j'aimerais qu'il révise. » Et finalement, il a bien réussi son examen. Donc, on a besoin d'être ouvert d'esprit, de comprendre tout ça sans trop de jugement. Hein. Ce n'est pas que l'enfant est malade ou paresseux ou peu importe l'étiquette qu'on peut mettre dessus. C'est vraiment qu'on est tous différents, hein, dans la façon dont on... Et c'est assez facile de découvrir tout ça. C'est la fin de notre podcast. Abonnez-vous à la chaîne pour être informé des prochains épisodes Et n'oubliez pas de visiter le site de desanimafrance.com pour découvrir les rapports de synthèse ou vous inscrire aux conférences gratuites. Vous pouvez y trouver aussi des informations sur les formations de l'école et vous pouvez prendre rendez-vous pour une analyse ou pour vous inscrire au cours Vivre son design. À bientôt!